7h50 à Paris, votre invité Frédéric Rivière. Vous recevez ce matin François-Xavier Bellamy, tête de liste du Parti des Républicains aux élections européennes.
Bonjour François-Xavier Bellamy.
Bonjour.
Nous sommes le 1er mai, c'est donc la traditionnelle journée de mobilisation et de nombreux casseurs pourraient s'infiltrer dans les cortèges, selon le ministre de l'Intérieur qui parle de 1000 à 2000 personnes. Est-ce que vous redoutez aujourd'hui une flambée de violence, à Paris en particulier ?
On ne peut que la redouter en effet, puisque le ministre de l'Intérieur lui-même attire l'attention sur le risque que représentent ces violences. Ce qui compte maintenant, c'est qu'il ne fasse pas seulement la liste des menaces possibles, mais qu'il propose aussi une manière efficace de réagir face à ces violences. Depuis trop longtemps, les manifestations sont polluées, perturbées par ces black blocs, ces casseurs, que l'on dit venir d'ailleurs, y compris d'autres pays européens ou d'autres pays du monde, seulement pour pouvoir casser, détruire, abîmer. Et je crois que ce qui est en jeu, c'est bien sûr non seulement la sécurité, l'ordre public qui sont troublés dans notre pays depuis très longtemps, ce qui est en jeu, c'est aussi la liberté de manifester pacifiquement. La manifestation est un droit évidemment fondamental, mais ce droit doit s'exercer dans le respect des règles qui, en République, s'imposent toujours. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est l'expression démocratique pacifique de toutes les manifestations qui est menacée par cette plombée de violence que le gouvernement, depuis trop longtemps, n'arrive pas à juguler.
Est-ce que ce 1er mai peut être l'occasion d'un nouveau souffle pour le mouvement des Gilets jaunes qui semble, du point de vue en tout cas de la mobilisation, marquer un peu le pas depuis quelques semaines ?
Je ne suis pas là pour faire des pronostics sur l'évolution de ce mouvement. Ce qui compte, c'est, je crois, que notre pays puisse retrouver l'ordre dont il a besoin, la concorde qui doit unir la société, même malgré les divisions, et que nous sachions retrouver une manière de débattre ensemble de façon démocratique, y compris lorsque nous sommes en désaccord. Ma conviction, c'est que ce que disaient les Gilets jaunes au tout début de ce mouvement était parfaitement justifié. Ouais. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec la remontée des prix de l'essence, du gasoil, des carburants, en général, qui fait évidemment beaucoup de mal au pouvoir d'achat des ménages et surtout qui touche directement ceux qui ont besoin de ce carburant pour travailler, pour aller à leur travail ou bien pour mener leur activité. Il faut évidemment une réponse sur cette question et cette réponse, elle passe par une vraie baisse de la fiscalité. Mais il faut que cette inquiétude puisse s'exprimer, là encore, dans un cadre démocratique et dans un cadre paisible.
Alors, la réponse au mouvement social, il y a eu, dans un premier temps, en décembre, un certain nombre de mesures d'ordre pratique annoncées par le président de la République. Et puis, il y a eu, la semaine dernière, les réponses à la suite du grand débat national. Le Premier ministre a détaillé le calendrier des mesures, c'était lundi. Est-ce que, dans ce qu'a annoncé le président de la République, vous voyez de l'ambition ?
On a du mal à voir exactement où nous conduisent ces annonces. Et quand vous parliez de détailler le calendrier des mesures, on a plutôt eu droit au calendrier des réflexions, des lettres de mission, des commissions à créer. Le Premier ministre nous dit qu'on va réfléchir collectivement à la manière de voir collectivement comment on peut avoir des résultats sur la question de l'emploi. Hein, tout ça n'est pas très sérieux quand même. Monsieur Macron a été ministre pendant plusieurs années. Monsieur Philippe est Premier ministre depuis 2 ans maintenant. On a du mal à comprendre qu'on ait toujours besoin d'empiler les diagnostics les uns sur les autres, alors que maintenant, il faut agir. Et il faut agir dans une direction très précise qui consiste à faire en sorte que la dépense publique puisse baisser dans notre pays. Ce que voient les Français, c'est que la dépense publique n'a cessé d'augmenter, que simultanément, les services publics n'ont cessé de se dégrader. Il faut qu'on arrive à retrouver un peu de bon sens, un peu d'efficacité. Et là-dessus, il faut un cap clair. Et aujourd'hui, malheureusement, ce cap clair, je crois que nous ne l'avons pas. C'est assez inquiétant, d'ailleurs, d'avoir le sentiment d'être dans ce brouillard qui ne cesse de durer, alors que nous aurions besoin plus que jamais de retrouver une vision partagée pour faire face à ces grands défis qui nous attendent.
Emmanuel Macron a annoncé, non pas qu'il renonçait, mais enfin, de fait, ça revient un peu à ça, à la suppression de 120 000 fonctionnaires pendant son quinquennat. Pour vous, c'est une erreur, ça? Il aurait fallu maintenir cet objectif?
Il faut évidemment maintenir un objectif fondamental qui est la baisse de la dépense
publique.
Vous êtes
sur ce sujet-là, ce qu'on pourrait appeler un ultra-orthodoxe sur la dépense publique ?
On peut pas considérer qu'on est un ultra-orthodoxe seulement parce qu'on estime qu'il est impossible de continuer...
Sur le point précis de la dépense publique.
Oui, mais y a le centre de gravité du débat dans notre pays est complètement déséquilibré parce que on vit dans un pays qui ne sait pas faire un budget en équilibre.
Mais il porte souvent là le centre de gravité, sur la dépense publique.
Mais c'est un sujet majeur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas être un ultra orthodoxe que de considérer qu'aujourd'hui, c'est un immense gâchis que cette dépense publique non maîtrisée qui constituera demain les impôts de nos enfants, qui est comme la dette que nous leur laissons à cause de notre incapacité à faire face au présent. C'est pas un investissement pour l'avenir, cette dette. C'est le fait de ce fonctionnement que nous ne savons pas maîtriser de notre État, de nos administrations. Et donc oui, bien sûr, il faut un objectif ambitieux de baisse de la dépense publique. Et oui, cette baisse de la dépense publique est la condition pour une véritable baisse de la pression fiscale qui, comme vous le savez, est en France parmi les plus élevées au monde. Aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de baisse de la dépense publique, parce que le président de la République a renoncé à la seule promesse qu'il avait faite sur ce sujet, eh bien on sait déjà que ces annonces, ces 17 milliards d'euros supplémentaires qui vont être dépensés, vont peser sur les entreprises à travers ce qu'on appelle la suppression de niches fiscales, qui n'est rien d'autre qu'une augmentation de la fiscalité.
Les Républicains, dont vous conduisez donc la liste pour les élections européennes, ont opéré une remontée très importante dans les intentions de vote depuis quelques mois. Il y a quelques mois, c'était entre 8 et 10%. L'un des tout derniers sondages vous crédite de 15,5%. Alors, on demande à vos amis si c'est l'effet Bellamy. Est-ce que vous pensez que c'est l'effet Bellamy ?
Non, je crois. Vous savez que on en fait beaucoup sur les têtes de liste, mais nous, ce que nous vivons dans cette campagne depuis le début, c'est d'abord une aventure d'équipe, c'est une liste qui est réunie. J'ai été investi depuis le début avec Agnès Hennel, avec Arnaud
Danjean. Le choix de vous placer en tête de liste n'a pas fait l'unanimité chez vous-même, au sein de votre parti, vous le savez bien.
Ouais, bien sûr, je me suis moi-même posé la question de savoir si...
Si vous faisiez l'unanimité avec vous-même.
C'est surtout, non, si, c'était pas du tout une évidence pour moi. J'étais pas programmé pour cette campagne, et je me suis posé la question de savoir si je serais le mieux placé pour être utile à ces idées que nous défendons ensemble. Ce qui compte le plus, c'est de pouvoir parler d'Europe et peut-être cette dynamique que nous connaissons aujourd'hui, elle est le résultat de ce travail que nous menons depuis 3 mois partout en France sur le terrain. Tous les jours, ce sera le cas encore aujourd'hui, eh bien, nous allons au contact des Français pour parler avec eux de l'Europe que nous voulons. C'est aussi ça, vivre un moment démocratique, c'est pouvoir proposer un choix clair avant. Nous avons un projet, 75 propositions, proposer justement un cap qui nous permette ensuite d'agir efficacement plutôt que de remédier par d'interminables grands débats à une absence de débat que nous n'avons pas su avoir avant les scrutins électoraux.
Qu'est-ce qu'elle vous apprend, cette campagne, sur la France et sur les Français ?
Elle m'apprend que la France, mais je le savais déjà comme élu local depuis 10 ans, je le vois tous les jours maintenant partout en France, est traversée de tensions très profondes, assez douloureusement fracturées. Elle m'apprend que beaucoup de Français travaillent et ne parviennent pas à s'en sortir et le vivent difficilement, bien sûr. Elle m'apprend que nous avons de grandes inquiétudes devant notre avenir, ce dont, au fond, la question de la dette est aussi l'un des symptômes. Mais elle m'apprend aussi que nous avons toutes les ressources pour pouvoir avancer. Et moi, je suis frappé tous les jours de voir sur le terrain des chefs d'entreprise qui se battent, des agriculteurs qui se démènent malgré toutes les difficultés, des salariés. Je suis frappé de voir à quel point beaucoup se donnent pour cultiver le lien social. Je pense aux associations, je pense aux élus locaux qui font le maillage de cette France qui tient encore debout par le terrain plutôt que par le haut. Et au fond, si on savait redonner un peu d'oxygène à tous ceux qui travaillent en France, à tous ceux qui s'engagent ainsi, je suis sûr qu'on aurait de quoi regarder l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme.
Vous avez choisi pour slogan de campagne ou pour formule de campagne, refonder l'Europe, rétablir la France. Qui ne propose pas aujourd'hui de réformer, transformer, refonder l'Europe ?
La question, c'est effectivement de savoir dans quelle direction on veut la refonder. Nous croyons, de façon très claire, à une refondation de l'Europe qui permette à nos pays d'être plus forts dans la mondialisation de demain. Nous ne croyons pas, contrairement au Rassemblement National, que nous serons plus forts en défaisant l'Europe. Et ça a été le discours pendant très longtemps du Rassemblement National.
Mais en reprenant tout de même de campagne, une part de notre souveraineté.
Et nous ne croyons pas non plus, contrairement à Monsieur Macron, que l'Europe doive devenir le synonyme d'une dépossession démocratique. Monsieur Macron a expliqué dans son discours de la Sorbonne ou d'Athènes que dans la mondialisation, l'échelle de nos États était une échelle périmée. Nous ne le croyons pas. Nous ne croyons pas qu'il faille transférer notre souveraineté à l'échelle européenne. Ça n'a jamais été le sens du projet européen. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut un projet clair. Aujourd'hui, malheureusement, la liste de La République En Marche nous dit qu'elle n'a pas de projet, qu'elle le dévoilera seulement le 9 mai. Pour un parti qui se prétendait profondément européen, dévoiler son programme 15 jours avant l'élection, c'est, je crois, un peu léger. Nous avons fait ce choix d'une campagne de terrain et de vision. Et c'est ce que nous essayons de développer ensemble.
Merci François-Xavier Bellamy.
Merci à vous.
Bonne journée.